Et notre invité ce matin dans le 8:30, Jean-Michel Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Sénateur des Hautes-Alpes, rapporteur de la mission d'information destinée à évaluer les effets des mesures de confinement. Il y a cette phrase aujourd'hui du directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge, qui disait avec Omicron, la fin de la pandémie en Europe semble plausible. Est-ce que vous êtes aussi optimiste ?
Je ne suis pas d'abord un spécialiste, épidémiologiste, médecin, mais je peux avoir un avis, puisque vous savez que bon, si on devait retenir un enseignement de la période, c'est que tout le monde a un peu un avis sur tout, et que tout le monde se trouve être un spécialiste de toutes les questions. Donc je répondrai avec beaucoup d'humilité, nous n'en savons rien. Voilà, nous n'en savons rien. Cela fait 2 ans qu'on nous annonce le bout du tunnel, et à travers les différents variants, on se rend compte que quand c'est fini, ça recommence. Ouais. Donc moi, je ne m'inscris pas dans ces logiques-là. J'entends le raisonnement de ce spécialiste de l'OMS qui consiste à dire que 60% des Européens vont effectivement attraper certainement le variant Omicron.
Cette fameuse immunité collective.
Et en conséquence, l'immunité collective va se créer. Je n'en sais rien. Ce que je crois, c'est qu'il faut rester très attentif aux gestes barrières et il faut continuer à être très attentif pour éviter d'avoir encore plus de dégâts.
La vaccination ?
Oui.
La vaccination. Vous êtes d'un côté favorable. L'entrée en vigueur du pass vaccinal aujourd'hui, vous la voyez comment ?
D'abord, une situation difficile parce que quand vous avez grosso modo 90% des Français qui ont accepté d'aller se faire vacciner, au moins d'engager son parcours vaccinal et que vous avez 10% pour des raisons qui leur appartiennent, dans lesquelles je n'entrerai pas, qui s'y ont farouchement opposés, on voit très bien que la dernière marche, comme souvent, est la plus difficile. Je crois que, moi, je regrette les conditions dans lesquelles le pass vaccinal est mis en œuvre.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que je pense, par exemple, qu'il était nécessaire d'éviter que des détenteurs d'autorités privées soient en situation de contrôler, parce que on est quand même vraiment sur la ligne de crête de la protection des libertés publiques.
C'est ça, aujourd'hui, il n'y a pas que les forces de l'ordre qui vont pouvoir contrôler le pass vaccinal. Les cafetiers vont pouvoir aussi le contrôler. D'ailleurs, vous avez fait une proposition, vous, par rapport à ce contrôle d'identité, c'est réduire, je vous cite, la charge de travail des professionnels en intégrant une photo du titulaire du pass vaccinal.
Oui, alors, je sais qu'il y a eu un débat autour de cette proposition qui n'a pas été retenue au Sénat. L'idée était simple. Grosso modo, on demande à chacun aujourd'hui pour déterminer et prouver sa situation de santé vaccinale, puisque c'est quand même un élément privé, son identité vaccinale est un élément privé, de devoir l'afficher et que ce soit effectivement contrôlé avec une pièce d'identité, permis de conduire, carte d'identité ou passeport. Je crois que c'était beaucoup plus simple d'intégrer la photo, comme on a d'ailleurs sur la carte vitale. Et ça aurait facilité. Ça n'a pas été retenu, soi-disant, pour des questions essentiellement logistiques, etc., etc. Peu importe. Nous, ce que nous avons défendu au Sénat, et j'ai soutenu cette dernière version, puisque nous, sénateurs, nous n'avons voté que la version sénatoriale, puisque c'est, en dernier mot, l'Assemblée nationale qui a approuvé et validé par son vote la version du pass vaccinal telle qu'elle se met en place à partir d'aujourd'hui. Nous, on avait 2 marqueurs majeurs qui sont finalement liés aux libertés publiques. Le premier, c'était effectivement que les autorités susceptibles de contrôler l'efficience du pass vaccinal soient des autorités de police, des autorités d'ordre, forces de l'ordre. Et la deuxième, c'est que ça ne concerne pas les mineurs, tout simplement. Donc, dans le texte, on est à 16 ans. Nous, on avait considéré que quand on est mineur, ce sont aux parents d'avoir la charge et d'accompagner leurs enfants. Donc, ce ne sont pas aux enfants de devoir porter, je dirais, une charge de passe vaccinal. Donc, on était sur les mineurs. Et d'autre part, l'interdiction, ou plus exactement, le maintien dans le cadre du droit actif, du droit positif, du contrôle du passe par des autorités de police.
Ce fameux contrôle de l'identité pour le passe vaccinal, est-ce que vous pensez très sincèrement que ça va être appliqué ? On a quand même vu certains cafetiers, certains restaurateurs ne même pas contrôler non plus le passe sanitaire. Alors, est-ce qu'ils auront vraiment le temps de contrôler le passe vaccinal et l'identité des détenteurs ?
Mais vous voyez bien la difficulté dans laquelle se trouve ce type de mesure, quelle qu'elle soit, quelles que soient d'ailleurs les bonnes justifications. Il s'agit quand même de contrer la maladie, d'éviter les formes graves, de faire en sorte que nous ayons rapidement une capacité à franchir la nouvelle étape vers autre chose que la maladie. Mais c'est pareil pour l'obligation vaccinale. S'il y avait eu obligation vaccinale, c'est l'efficience, c'est la réalité. Je crois que la vérité au fond, et je ne suis pas ni porte-parole du gouvernement, ni porte-parole des oppositions en disant ça, je crois qu'il y a eu une volonté du gouvernement de convaincre avec un outil coercitif, entre guillemets, les Français les plus récalcitrants à se faire vacciner. Et paradoxalement, quand on regarde l'augmentation des primo-vaccinés suite à la décision prise par le Parlement de mettre en place le pass vaccinal, on a une augmentation de 50% des primo-vaccinés. Donc vous voyez, c'est bien toute la difficulté. Moi, je crois qu'il faut toujours convaincre, aller vers, et au bout du bout du bout, celles et ceux qui décident de se mettre en dehors de la société, en dehors du process collectif, d'immunité collective, parce que la première immunité collective aujourd'hui, c'est la vaccination. Moi, je suis favorable à la vaccination. Mais je crois qu'au bout du compte, c'est ces personnes-là qui décident finalement de se mettre un peu en marge de la société. Et il faut quand même aller vers eux, parce que ce n'est pas parce qu'on décide de se mettre en marge de la société qu'il faut considérer qu'on est face à des citoyens qui sont des citoyens de deuxième zone.
Est-ce qu'Emmanuel Macron va justement vers cette partie de la société dont vous parlez quand il dit vouloir emmerder les non-vaccinés ?
Je crois que cette...
C'est une erreur de communication,
c'est à lui de l'apprécier, comme je vous le dis. Moi, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, ni du président de la République.
Vous avez un avis,
mais j'ai un avis, je vais l'exprimer.
C'est une erreur.
Je pense qu'on ne parle pas comme ça au plus grand nombre. Il faut toujours faire de la pédagogie. Vous savez, je suis élu local. J'ai été maire pendant 20 ans. On est confronté parfois à des situations qui, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue construit, sont parfois incompréhensibles pour l'élu local que je suis, que nous sommes. Mais on trouve des solutions par le dialogue. Donc je crois qu'il faut toujours construire une relation de confiance avec les citoyens, convaincre. Et puis celles et ceux qui souhaitent se mettre en marge de la société, se mettent en marge de la société à leur risque et péril. Parce que ce sont eux finalement qui sont les premières victimes de la maladie. Et on voit très bien que le nombre de personnes vaccinées à l'hôpital en soins intensifs est relativement faible à due proportion de celles et ceux qui ne le sont pas.
La mission, justement, d'information face aux mesures de confinement, dont vous êtes le rapporteur, a fait cette déclaration. Le gouvernement a fait le choix délibéré de laisser le virus circuler dans les écoles. Il y a une grande manifestation la semaine dernière qui a été extrêmement suivie avec le milieu d'éducation nationale, aujourd'hui qui reproche la multiplication du protocole sanitaire. On ne s'y retrouve plus. Les parents, aujourd'hui, qui sont même prêts à rendre de faux autotests, de faux certificats. Aujourd'hui, on n'y voit plus vraiment clair au niveau du protocole sanitaire.
Oui, enfin, on a eu un vrai souci dans les écoles. Je crois que le choix du gouvernement a été, quoi qu'il en coûte, de maintenir les écoles ouvertes. Pour des raisons qu'on peut comprendre, faire en sorte que les parents puissent continuer à travailler, ne pas déstabiliser les familles, faire en sorte qu'on n'ait pas des enfants finalement à la rue, etc., etc. La réalité, c'est que je l'ai constaté puisque je me suis rendu au titre de la mission à laquelle vous faites allusion dans une école, dans un groupe scolaire à Laragne le 3 janvier pour la rentrée scolaire. Vous savez, le fameux protocole expédié du lieu de vacances, semble-t-il, M. Blanquer. Bon, on s'apercevait que sur le plan local, le protocole n'était pas encore arrivé sur le bureau du directeur. Il y a eu des contradictions dans la mise en œuvre. Trois jours après, on a eu un changement de règles. Voilà. Moi, je crois toujours, vraiment, que ce qui est important, ce n'est pas le protocole dans le détail. Et nous l'avons vécu, nous, maires, au début de la pandémie, au fameux mois de mars, avril, mai 2020. On a besoin d'un cadre dans lequel il faut ensuite laisser une liberté d'appréciation et d'adaptation au vu de la configuration des écoles, au vu du niveau d'infection territoriale, au vu de l'organisation des parents, et je peux vous le dire avec force et avec aussi une forme de dignité et de respect à l'égard des personnels enseignants et notamment des directions d'école, le job a été fait par les directions d'école avec une grande responsabilité, avec des instituteurs et des professeurs d'école qui ont joué le jeu en lien avec les collectivités support qui sont les communes. Et globalement, on a trouvé des solutions. Moi, je vous rappelle qu'au mois de mars 2020, il n'y avait aucun protocole défini par l'Éducation nationale. Et nous avons trouvé des solutions par le dialogue avec les équipes.
Il faut un cadre et des mesures un peu plus territoriales.
Mais toujours pareil. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, vouloir tout décider du national, comme s'il n'y avait pas des spécificités locales, comme s'il n'y avait pas des adaptations locales, comme s'il n'y avait pas aussi des différenciations, des différences importantes entre écoles. Une école à Ribéré ne se gère pas de la même manière qu'un groupe scolaire Pasteur à Gap. Oui. Donc je crois que c'est ce genre de choses qu'il faut effectivement intégrer.
Une déclaration, c'est celle de Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une déclaration d'amour que je fais aux Alpes avec cette candidature portée pour les Jeux Olympiques d'hiver 2034 ou 2038. C'est une aubaine ? C'est une réalité ? C'est un rêve ?
D'abord, c'est une intention. C'est le mot qu'il a eu.
Alors,
le président,
c'est une intention,
voilà,
en effet.
C'est le mot utilisé par Renaud Muselier. Deux, je pense que c'est un objectif de mobilisation de notre région, à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur, pour montrer que nos Alpes du Sud, de la région Sud, sont performantes, disposent d'infrastructures importantes et sont lieux de destination touristique. Et je crois que c'est important de bien positionner au niveau national et international la destination Hautes-Alpes comme destination de sport de montagne 4 saisons dans lequel on retrouve la dimension neige et donc la dimension plus olympique.
On a la capacité d'accueillir.
J'y viens. La deuxième chose, c'est une mobilisation en interne. Je me souviens, j'étais étudiant à Grenoble en sciences politiques à l'époque, lorsque mes camarades et mes amis de promotion savoyards s'étaient mobilisés pour la candidature réussie d'Albertville. Il n'y avait pas qu'une mobilisation autour de la neige, il n'y avait pas qu'une mobilisation autour des acteurs de la montagne, de stations. Il y avait une mobilisation des acteurs industriels, il y avait une mobilisation de la population. Je crois que la seule façon de réussir éventuellement une candidature crédible, ne pas avoir un zéro pointé, c'est faire en sorte que l'ensemble de la population, y compris la partie industrielle, mais une partie industrielle pas l'ancienne, d'innovation numérique, de transition climatique et énergétique, se mette en mouvement. Et je crois que sur cette dimension-là, je ne sais pas si on a un coup à jouer, mais on a un coup à porter pour mobiliser et faire en sorte de repositionner la région avec un projet d'ambition. Il peut y avoir d'autres projets d'ambition. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Réussir une transition énergétique, transition écolo, c'est important. Réussir, peut-être nous en parlerons, une transition aussi énergétique compte tenu des risques que la région Sud prend sa Côte d'Azur à moyen terme peut connaître en matière de rupture de blackout énergétique est également important. Donc on a plusieurs chantiers. Je crois que l'idée portée par Renaud Muselier a le mérite de fédérer les énergies et de se mettre une perspective, mais ça ne doit pas être la seule.
Alors, trois dernières questions, je vais vous demander des réponses extrêmement rapides. Chèque inflation pour les ménages, ça a été mis en place, mais, et vous l'avez dit au gouvernement, aucune mesure pour les collectivités. Vous demandez quoi aujourd'hui aussi? Un chèque énergie pour les collectivités, pour qu'elles puissent, à l'image du centre aquatique du côté du Champsaur, pour qu'elles puissent aussi payer la facture.
Il n'y a pas 36 possibilités. La différence entre un privé et une collectivité locale, c'est que le privé, évidemment, a sa facture à payer, la collectivité locale a sa payure. Sa facture à payer, mais également un service à mettre en place, à maintenir un équipement, un service public. Donc, il y a quand même une différence. Moi, il me semble qu'il faut qu'on rediscute du pacte financier, et le débat des présidentielles le permettra, entre les collectivités locales et l'État, dans une triangulation entre usagers, contribuables locaux et mutualisation et solidarité de l'État en direction des territoires qui n'ont pas trop de ressources ou pas trop de contribuables dans leurs territoires respectifs.
Présidentielle, vous en parliez. Comment vous définiriez aujourd'hui le tableau? On a les primaires citoyennes, la présence d'Éric Zemmour. Est-ce que finalement l'explosion du clivage gauche-droite réalisé par Emmanuel Macron a été bénéfique?
Je crois que la vision idéologique des années finalement où le mur de Berlin existait encore a explosé, c'est une bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne se retrouvent plus strictement dans le clivage droite-gauche, mais se retrouve dans « je suis ou je ne suis pas ». Je suis dans la collectivité locale et dans ma communauté locale où je ne suis pas. Je suis reconnu dans la communauté nationale où je ne le suis pas. Je suis travailleur où je ne le suis pas. Je suis en situation de cassure où je suis dans le monde et dans la mondialisation. Je crois qu'effectivement, ce clivage a explosé et j'en suis heureux. Maintenant, il faut quand même retravailler aux identités parce que je crois qu'il faut que ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'appartenir à un groupe qui est quand même un élément qui permet, un, de sortir de chez soi et deux, d'avoir et de porter, Jeux Olympiques par exemple, une volonté commune est indispensable. Et je crois que le débat, il est là pour l'élection présidentielle.
Et vous, qui va porter justement, selon vous, cette appartenance, cette identité, qui est le candidat le plus à même de répondre à vos attentes?
Aujourd'hui, je ne le connais pas, je ne le vois pas et je fais un aveu. Je ne me retrouve pas aujourd'hui dans l'offre politique.
Et si Emmanuel Macron est candidat?
Nous verrons bien, dans tous les cas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de débat présidentiel sur les vrais enjeux des Français, les enjeux de territorialité que j'évoquais, mais aussi les enjeux de pouvoir d'achat, de sécurité et également de santé. C'est sur ces sujets-là, je crois qu'il faudra effectivement porter le débat, parce qu'avoir un débat offshore ou hors de portée pour la plupart de nos concitoyens, je sais ce que ça va donner. Ça va donner, un, de l'absentéisme, et deux, des extrémismes. Et en ce qui me concerne, mon marqueur, c'est la lutte contre les extrémismes, parce que ce n'est pas en faisant battre les gens les uns contre les autres qu'on fera une société pacifique et une société qui ira de l'avant et qui répondra aux objectifs et aux enjeux de demain.
Législatif, vous allez vous ranger derrière les candidats de La République En Marche?
Non, pas plus qu'aujourd'hui, je n'ai à me ranger auprès des candidats LR ou tout autre candidat. Vous savez, on est dans un timing. Aujourd'hui, on est à 80 jours de l'élection présidentielle. Vous avez même vous-même noté que tous les candidats n'étaient pas sortis du bois. On en connaît un certain nombre, dont on ne connaît pas encore les propositions. On les a vus en tant que tête de gondole. Il y a certaines gondoles qui méritent d'être un peu clarifiées et humanisées. Je vous l'ai dit, moi, mon marqueur, c'est haro sur les extrêmes. Pas parce que celles et ceux qui sont en colère ne puissent pas l'exprimer, on est en démocratie, mais parce que je crois que ce n'est pas comme ça qu'on tire le pays par le haut et qu'on résout les problèmes de la société du quotidien. Mais j'attends les propositions. Je participerai, comme je l'avais fait en 2017, au grand rendez-vous porté par l'Association des maires de France qui auditionnera les candidats. Moi, j'attends de notre candidat à la présidence de la République et peut-être notre président de la République, un engagement fort sur la responsabilité locale, deux, sur l'accompagnement sur le marché de l'emploi, tant des employeurs que des salariés, trois, une politique de solidarité active et un projet européen, parce que je suis profondément, et c'est peut-être aussi un fait de ma génération, ancré, porté sur un engagement européen qui permet effectivement de résoudre un certain nombre de difficultés à la frontière de l'Europe, en Ukraine aujourd'hui, je l'espère, mais aussi demain, pour essayer un peu de réguler cette mondialisation qui a montré par son ultralibéralisme aussi les dégâts faits dans les territoires.
Merci beaucoup Jean-Michel Arnaud d'avoir été avec nous ce matin, sénateur des Hautes-Alpes. Merci.